RFI, 8h à Paris, 6h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour Jeanne Bartoli.
Et bonjour Julien et bonjour à tous.
Dans ce journal, la guerre est-elle déclarée entre l'État hébreu et la République islamique d'Iran?
Cela, on a tout l'air après une nuit de bombardements iraniens. En Israël, il y a 3 morts, des dizaines de blessés, de gros dégâts. 150 missiles balistiques ont été tirés en réponse aux attaques israéliennes lancées sur des sites militaires et nucléaires iraniens il y a 24 heures. Récit d'une nuit aux abris pour les Israéliens dans ce journal. À l'ONU, la réunion extraordinaire du Conseil de sécurité a été marquée par les accusations de l'ambassadeur iranien contre les États-Unis, accusé d'être complice des attaques lancées par Israël. On reparle de la situation entre l'Iran et Israël juste après ce journal, édition spéciale qui se poursuit. Et puis dans cette édition également, les 6 mois du passage dévastateur de l'ouragan Chido à Mayotte et reportage également en Corée du Sud où ça y est, le groupe de K-pop BTS va pouvoir reprendre ses concerts après plus d'un an et demi de service militaire obligatoire.
Une nuit de peur en Israël.
Le pays visé par une pluie de missiles balistiques iraniens depuis hier soir. D'importants dégâts sont rapportés principalement à Tel Aviv. Il y a au moins 3 morts selon les services de secours israéliens. Des dizaines de blessés. La riposte iranienne a été forte. Hier, le ministre iranien des Affaires étrangères avait qualifié de déclaration de guerre les bombardements israéliens lancés il y a 24 heures maintenant contre des bases militaires et des infrastructures nucléaires iraniennes. Bonjour Sami Boukhelifa.
Bonjour à tous.
Vous êtes en direct avec nous de Jérusalem. Vous étiez hier soir, Samy, à Tel Aviv, où le quartier du ministère de la Défense israélien a été lourdement touché.
Les alarmes incendies, les alarmes de voitures, leur feu qui clignote, des débris, des branches, du verre au sol, la fumée, les gyrophares de la police, des secours, les soldats déployés autour de la Kiria, principale base de l'armée israélienne à Tel Aviv, qui abrite donc le siège du ministère de la Défense. Le quartier est bouclé, difficile de dire si le site militaire interdit d'accès a été lourdement atteint, mais autour c'est le chaos, une grande tour d'habitation est éventrée entre le 8e et le 15e étage. Un missile a frappé l'immeuble, au pied du bâtiment, Vittorio espère retrouver son fils lorsque celui-ci l'appelle. Le fils fond en larmes. Ne t'inquiète pas, je viens te chercher, dit le père.
Il va bien. Il s'est réfugié dans les sous-sols, au parking, au niveau moins 5. Regardez là-bas, vous pouvez voir la fumée. C'est fou, oui, mais c'est notre vie. Je n'ai pas peur, je suis content qu'il ait survécu. Je suis très content.
L'alerte est levée. Dans le quartier, certains habitants sortent des abris. Ellie découvre les dégâts.
Oh, that's the building that got hit. Wow.
Oh, c'est cet immeuble qui a été touché? Waouh, il est bien endommagé. Toute la façade est tombée. C'est dingue, tout a explosé.
Crazy to see it blown up.
Rachel est juive américaine. Elle vit à Tel Aviv depuis 4 ans.
J'essaye de trouver une manière rationnelle pour me convaincre de vivre dans ce pays. Je me dis que la technologie dont dispose l'armée me protégera, mais il faut se rendre à l'évidence, ce n'est pas fiable à 100%. Et aujourd'hui, nous faisons face aux conséquences. Mais pour continuer de vivre normalement, cette attaque menée par Israël était nécessaire. On ne peut pas continuer de vivre dans la peur d'être ciblé par une bombe atomique.
L'Iran revendique avoir tiré plus de 150 missiles balistiques sur Israël en réponse à l'agression israélienne sur son territoire. L'armée de l'État hébreu affirme en avoir intercepté la majorité.
Et Sami Boukhelifa en direct avec nous de Jérusalem. Côté bilan, on le disait, 3 morts, des dizaines de blessés en Israël, 78 morts, plus de 320 blessés rapportés en Iran, dont une large majorité de civils selon les autorités iraniennes. Hier, le conseiller à la sécurité nationale israélien a lui jugé impossible de détruire le programme nucléaire iranien par la seule force, alors que demain devait avoir lieu une nouvelle session de pourparlers sur le nucléaire iranien entre Téhéran et Washington. Ces négociations qui sont désormais dénuées de sens, selon Téhéran, qui ne confirme pas néanmoins leur annulation. Aux États-Unis, Donald Trump, lui, s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou. Rien n'a filtré sur le contenu de leurs discussions. Côté diplomatie, un conseil de sécurité extraordinaire s'est tenu hier soir à New York. que l'Iran y a accusé les États-Unis d'être complices des attaques lancées par Israël. À New York, récit de Karine Auton.
Pour l'ambassadeur iranien à l'ONU, cela ne fait aucun doute. Les États-Unis savaient que ces frappes allaient avoir lieu, ils sont donc complices. Il l'a martelé devant le Conseil de sécurité. Quelques minutes plus tôt, le représentant américain mettait en garde contre des représailles et assurait que Washington continuerait à chercher une solution diplomatique. Son but, garantir que l'Iran ne puisse jamais se doter de l'arme nucléaire ou constituer une menace pour la stabilité au Moyen-Orient. L'État hébreu a lui dénoncé l'inaction du Conseil de sécurité malgré les violations répétées de Téhéran à enrichir son uranium et a estimé que sa patience avait atteint ses limites. Jeudi, justement, l'ultimatum de 60 jours que l'administration Trump avait donné à l'Iran pour revenir sur son programme nucléaire avait expiré, un élément de plus qui renforce la complicité entre Israël et son allié américain. Le reste du Conseil a appelé à la retenue, mais des camps se sont clairement dessinés, avec d'un côté la Russie, la Chine, l'Algérie ou le Pakistan qui dénoncent avant tout l'attaque contre l'Iran, et les pays occidentaux et alliés condamnant la lenteur de l'Iran de se conformer à l'accord encadrant l'enrichissement de son uranium et reconnaissant le droit d'Israël à assurer sa sécurité. Karine Auton, New York, RFI.
Et puis elle devait se tenir la semaine prochaine au siège de l'ONU. Emmanuel Macron a annoncé hier le report de la conférence internationale co-présidée par la France et par l'Arabie Saoudite. Emmanuel Macron qui devait intervenir mercredi et avait envisagé lors de ce rendez-vous de reconnaître un État palestinien. Il a réitéré sa volonté de reconnaître l'État de Palestine. Justement, c'était une marche en soutien au Gazaoui. La marche vers Gaza vire à la répression en Égypte après avoir expulsé des dizaines de personnes. Jeudi, les autorités égyptiennes ont hier tout mis en œuvre pour empêcher les participants de se mettre en route aujourd'hui vers la frontière avec Gaza. Des barrages filtrants ont été mis en place, les passeports des participants saisis et certains d'entre eux ont été violentés par les forces de l'ordre égyptiennes. Reportage au Caire d'Amira Swilem.
Sous un soleil de plomb, Marc, Suisse de 35 ans, n'en peut plus d'attendre. Comme des centaines de personnes, il a été arrêté à un barrage filtrant alors qu'il s'était mis en route pour le nord du Sinaï, d'où il espérait atteindre la frontière avec Gaza.
On attend là, puis on va voir ce qui se passe, si je dois rentrer chez moi, si je suis un ennemi de l'Égypte maintenant, puis voilà, on verra.
Et quel message vous voulez faire passer ?
Quel message ? Laissez-nous passer, on va juste asseoir là-bas, puis rester en masse, quoi. Dire stop, ouvrez-moi ces frontières, ça suffit là.
Comme lui, en file indienne sur le bas-côté, des dizaines de voitures patientes. Lassés, et alors que leurs passeports leur ont été confisqués, certains participants entament un sit-in. Les bras croisés, Samy, franco-palestinien, est venu avec son père et une amie depuis Paris. Il laisse éclater une colère froide.
Ça m'inspire de la honte pour ce gouvernement égyptien d'être là, coincé ici, alors qu'il y a un génocide qui se passe. On est tous là pacifiquement pour venir casser ce blocus et faire passer l'aide humanitaire. Et là, on voit comment on est accueilli. C'est une honte. Il n'y a pas d'autre mot, quoi, d'être bloqué ici alors que c'est d'une complicité dégueulasse, quoi.
Une marche qui a fait du surplace. Les participants ne veulent pourtant pas parler d'échec. Leur but était aussi de montrer que les peuples soutiennent Gaza, contrairement aux grandes secondes. Amira Swilem, Le Caire. RFI,
8h, passées de 8 minutes, c'était il y a 6 mois, jour pour jour, le cyclone Chido frappait Mayotte, l'île française dévastée par la force du puissant cyclone, le plus puissant sur place depuis 90 ans, une tragédie qui avait fait 40 morts, 40 disparus également et qui a fragilisé un territoire déjà en grande difficulté depuis la reconstruction, met du temps à se concrétiser, à Mamoudzou, les toits éventrés s'étendent toujours à perte de vue. Reportage Lisa Morissou.
Ici, c'était le studio.
L'agence de communication est méconnaissable. L'entreprise de 17 salariés possédait des équipements audiovisuels dernier cri. L'intégralité a été ravagée par le cyclone, ce qui représente 250 000 euros de pertes selon Zamir Saïd Ali, le directeur de production. Pour envisager une réelle reprise de l'activité, l'agence a besoin des aides.
Pour acheter du matériel, etc., bien entendu, on est obligé d'attendre de recevoir les sous de l'assurance. En même temps, on attend aussi des créances clients pour pouvoir aller racheter du matériel. Et on a déposé des dossiers de subvention.
La situation d'Inatcom n'est pas un cas isolé. Des professionnels et des particuliers se retrouvent bloqués dans l'attente des aides financières. De l'autre côté, de nombreux artisans ne peuvent pas non plus entamer des travaux de réparation. Bouraïma Ali Ousseni est le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Mayotte.
Aujourd'hui, les marchés, il y en a très peu. Il y a eu beaucoup de commandes qui ont été faites en urgence par rapport au passage du cyclone. Beaucoup d'artisans ont été mobilisés. Aujourd'hui, 6 mois après, ils ne sont pas payés par les collectivités.
De fait, il est impossible pour eux de démarrer un chantier sans avoir les moyens d'acheter du matériel ou de payer leurs salariés. Lisa Morisseau, Mayotte, RFI.
Avant les sports, direction à présent la Corée du Sud où les membres du groupe de K-pop BTS terminent leur service militaire. Concrètement, cela veut dire qu'ils seront bientôt de retour sur scène après plus d'un an d'absence. Un soulagement pour les fans du groupe qu'a rencontré Celio Fioretti.
Ils étaient très nombreux, venus du monde entier, à se rassembler pour le BTS Festival organisé chaque mois de juin en Corée du Sud pour célébrer le boys band. L'occasion pour les fans de prendre des photos et d'échanger des souvenirs, à condition de patienter en faisant la queue pour entrer, comme Laetitia et Tiffany.
Actuellement, il est 1h20, ça fait 5h, à peu près, ça fait 5h. Mais
en fait, ça en vaut la peine.
Le festival a une saveur toute particulière après un an et demi d'absence pour les membres du groupe, afin d'effectuer leur service militaire obligatoire en Corée du Sud. Tenu en haleine avec la sortie d'albums enregistrés avant leur départ, leur retour est tout de même très attendu par les deux fans.
Ouais, en tout cas, trop contente qu'ils soient de retour là. J'espère quand même qu'ils se reposent un peu parce que... Ouais, ils viennent de... Et puis c'était pas facile pour eux, enfin, de ce qu'ils ont dit, du coup...
Puis j'espère peut-être voir les membres.
Peut-être pour voir les 7 ensemble.
C'est jamais.
Photos, échanges et achats de souvenirs, un véritable événement communautaire soldé par un concert exceptionnel. Le groupe sera bel et bien en complet la semaine prochaine avec la fin de service militaire de son dernier membre. La carrière du plus célèbre boys band de K-pop n'est pas prête de s'arrêter. C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
Enfin, il pourra désormais se faire appeler sœur. L'ex-footballeur anglais David Beckham, anobli par le roi Charles III hier, distingué pour ses services à la société britannique. Je n'aurais jamais pu imaginer que je recevrais un tel honneur, a réagi David Beckham. Et puis, football sur les terrains à présent, ce sera la nuit prochaine, le début du Mondial des clubs, première édition de cette grande compétition organisée aux États-Unis et qui rassemble 32 équipes de tous les continents. Le match d'ouverture, ce sera Inter Miami face à Al Ahly du Caire. Vous retrouvez notre envoyé spécial à Miami dans le journal de 9h avec Martin Guez. En attendant, il est 8h passé de 12 minutes et tout de suite, c'est Julien Coquel-Rouhem.
Merci Jeanne Bartoli. RFI Matin, toujours en édition spéciale au deuxième jour de l'escalade entre l'Iran et Israël. Une nuit de tirs de missiles iraniens sur Israël, des dizaines de blessés, un bilan qui passe à 3 morts. La riposte promise par Téhéran aux frappes israéliennes sur son territoire, elles ont commencé dans la nuit de jeudi à vendredi. Elles se poursuivent depuis. Jusqu'où peut aller cette escalade? À quel point l'Iran est-il affaibli? Quels sont les objectifs des deux côtés? Et à quoi assiste-t-on sur le plan international, alors que Donald Trump assure ne pas être impliqué, mais en profite pour faire pression sur Téhéran pour un accord sur le nucléaire? Faut-il craindre un embrasement régional? On continue de se poser toutes ces questions.
Édition spéciale sur RFI.
Et on se les pose notamment avec vous, Thierry Coville. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran. Vous êtes notre invité pour cette deuxième partie d'édition spéciale. On va d'abord partir à Jérusalem, alors qu'hier soir, Israël a donc été frappé par l'Iran en riposte aux attaques de l'État hébreu depuis la nuit de jeudi à vendredi. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
En direct avec nous de Jérusalem, où on a assisté, comme dans tout le pays, à une nuit d'échange de tirs quasi continue.
Oui, une nuit agitée, pourrait-on dire. Des millions d'Israéliens ont passé une partie de cette nuit dans les abris. En tout, 6 salves de missiles iraniens et au moins l'une d'entre elles n'a pas été précédée d'une alerte. À ce stade, 3 morts, des dizaines de blessés et d'importants dégâts parmi la population civile. L'armée israélienne affirme que la grande majorité des missiles a été interceptée. Ce matin, il y a 30 minutes environ, une alerte aux drones dans la région de la mer Morte. Alors, la principale cible la nuit dernière, ça a été la métropole israélienne, Tel Aviv, mais c'est dans 2 de ces banlieues que l'impact des missiles a été le plus meurtrier, à Ramat Gan et à Rishon LeZion. Le cabinet de sécurité examine une riposte israélienne à la riposte iranienne. Le ministre de la Défense, Katz, déclare que l'Iran a franchi des lignes rouges en frappant des cibles civiles et il promet que le régime iranien paiera un prix lourd. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien de son côté, estime qu'Israël a mis en place contre l'Iran une des plus grandes opérations militaires de l'histoire. L'heure est venue pour les Iraniens de se révolter contre le régime, un régime que Netanyahou qualifie de maléfique et d'oppressif. L'armée israélienne affirme encore ce matin avoir frappé dans la région de Téhéran des batteries de missiles solaires. Ce sont des cibles d'importance stratégique selon Israël.
Merci Michel Paul. À Jérusalem, on continue de suivre la situation sur place avec vous. Alors que les frappes israéliennes, vous le disiez, ont continué cette nuit sur le territoire iranien. Thierry Coville, après ces tirs de missiles sur Israël par l'Iran, un cap est-il franchi ou ces frappes, leur nature, leur ampleur étaient-elles prévisibles?
Ah ben, le cap, il a été franchi par Israël. Enfin, excusez-moi, mais un observateur impartial note qu'un pays, Israël, a attaqué l'Iran. Alors, on nous parle d'attaque préventive. Mmh. Notre président, Emmanuel Macron, voit écoutez, là je sais pas ce quoi dire, le droit de l'Israël à se défendre. Ils ont attaqué un autre pays. Donc, c'est complètement contraire au droit international. Donc, le gros problème, il est là, je pense. Excusez-moi.
C'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas forcément évoqué, mais celui de la légalité de ces frappes qui ont fait au moins 78 morts et 320 blessés côté iranien. On va reparler d'ailleurs du soutien des Occidentaux. Mais on voit donc que l'Iran a commencé sa riposte tout en étant très affaibli depuis le 7 octobre 2023, tout comme ses alliés. Quelle est la capacité réelle de l'Iran aujourd'hui à aller plus loin dans sa réponse?
Ah ben, il y a quand même une réponse. C'est vrai que l'Iran est affaibli dans la région, hein, donc ses alliés régionaux sont affaiblis, mais enfin il y a encore des milices chiites actives en Irak et les Houthis qui continuent à se battre contre Israël. Et effectivement, la faiblesse de l'Iran, on le voit, hein, mais c'est pas nouveau. C'est des avions qui datent de Mathusalem, hein, parce qu'ils peuvent pas acheter des avions aux Occidentaux. Et puis c'est un système de défense antiaérien, bon, alors, qui est basé sur des radars russes, mais manifestement qui ne répond pas, qui n'est pas capable de s'opposer aux attaques aériennes israéliennes. Alors, ça c'est la grande faiblesse. La force, c'est le programme balistique iranien, donc qui existe, qui est quand même compte tenu pour un pays sanctionné quand même depuis 40 ans, ils ont vraiment construit ce programme pas à pas. Et donc, effectivement, on le voit bien, hein, à mon avis, la réponse de l'Iran, elle est basée sur ses missiles et également sur ses drones. Hein, ils sont quand même arrivés. Alors, c'est pas des drones hyper sophistiqués, mais on a vu la Russie leur a quand même acheté des drones. Donc, ils arrivent aussi à construire des drones.
Une force balistique, alors qu'Israël a, semble-t-il, touché des sites de missiles, des entrepôts de missiles dans ces frappes d'hier. Elles ont aussi, ces frappes, décapité une partie du commandement militaire et des gardiens de la Révolution. Quels effets ça peut avoir aujourd'hui?
Oui, alors c'est sûr que c'est un choc, hein, parce que c'est quand même... imaginez qu'en France, le responsable des armées est assassiné par une attaque soudaine. Je pense qu'on serait quand même relativement surpris et inquiet. Et en plus, le chef des Pasdaran était tué, et également des scientifiques iraniens. Donc quand j'entends quand même Israël qui dit que l'Iran a franchi la cap en s'attaquant aux civils, il y a quand même des scientifiques iraniens, des professeurs d'université et leurs familles, hein, leurs femmes et leurs enfants, qui ont été tués, assassinés par Israël. Donc vous avez raison, là, il y a une volonté d'Israël de décapiter, entre guillemets, hein, j'ai entendu cette expression hier, pas très élégante, mais enfin décapiter le pouvoir iranien. Mais bon, tous les experts vous diront que dans ces cas-là, les chefs militaires, ils sont remplaçables. L'Iran, c'est un pays de 90 millions. Puis alors, surtout, il y a quelque chose qu'il faudrait que les gens comprennent bien. Le problème nucléaire iranien, c'est une expertise, hein, qui a été acquise. Il y a des centaines de chercheurs en Iran. Donc, ils peuvent, à la limite, c'est là où je vois aussi un problème. Israël peut continuer à essayer de détruire les sites d'enrichissement d'uranium de l'Iran, mais cette expertise, elle va rester. Donc, vous imaginez, l'Iran après, je pense qu'il y en a un certain nombre de gens en Iran, hein, que je connais un petit peu, qu'on va avoir forcément très très envie de se diriger vers la bombe atomique.
On voit une grille de lecture se dessiner comme elle s'était dessinée déjà d'ailleurs au moment des échanges de tirs de l'année dernière, sur une balance décisionnelle pour Téhéran aujourd'hui entre la nécessité de montrer sa force et le risque de s'exposer à des frappes encore plus dévastatrices. Elle est encore opérante ce matin, cette ligne, alors que vous nous dites qu'un cap a été franchi par Israël?
Ah oui, ben, si vous voulez, L'Iran n'est pas différent d'un autre pays. Donc, le ministre des Affaires étrangères iranien, Lorchi, a dit « c'est une déclaration de guerre ». Voilà, bon, tout est dit. Donc, imaginez que la France est attaquée tout d'un coup, nos sites nucléaires attaqués, nos chefs militaires attaqués. Oui, l'Iran se considère qu'ils sont en situation de guerre. Bon, dans ce cas-là, ils répondent. Je pense qu'il y a non pas, faut arrêter de faire de l'Iran un pays spécial. N'importe quel pays, enfin, excusez-moi, un autre pays dans la même situation, je pense, réagirait de manière similaire.
On va continuer de parler de l'Iran, des retombées régionales et internationales aussi, mais j'aimerais qu'on évoque Israël avec vous, Guilhem Delteille. Rebonjour, vous êtes journaliste au service international de RFI, ancien correspondant à Jérusalem. Quels sont les objectifs affichés par Israël depuis la nuit dernière?
Alors, celui évoqué par Benjamin Netanyahou, c'est l'élimination du programme nucléaire iranien. Ce n'est pas une grande surprise, cela fait partie des chevaux de bataille depuis des années de Benjamin Netanyahou. Ce sont un certain nombre de sites nucléaires en Iran qui ont été touchés à Ispahan, près de Téhéran également. Faut garder en tête également que l'autre cible annoncée par Benjamin Netanyahou, c'est l'arsenal de missiles balistiques. C'est une cible dont on parle un peu moins. C'est une inquiétude qui est peut-être un peu moins souvent évoquée quand on parle des relations entre Israël et l'Iran. Pourtant, depuis des années, là aussi, Benjamin Netanyahou met en garde contre ce programme. On voit bien que ces missiles ont la capacité d'atteindre le territoire israélien. Et évidemment, la plus grande crainte, le scénario catastrophe pour Israël, c'est que ces missiles soient équipés à terme d'une tête nucléaire.
Et au moment où Benjamin Netanyahou est de plus en plus sous pression d'une partie de son opinion publique sur la bande de Gaza, est-ce que cette offensive sur l'Iran fait débat aujourd'hui dans la société israélienne?
Alors pas vraiment. L'Iran est dépeint comme le grand ennemi d'Israël depuis très longtemps. Le danger que représente la République islamique pour l'existence, la survie d'Israël ne fait pas débat dans le pays. On n'a pas entendu de grandes déclarations sur ce sujet hier, notamment dans la classe politique. Il n'y a pas eu de condamnation de ces frappes israéliennes lancées par Netanyahou.
Et Benjamin Netanyahou a prévenu dès hier matin que les frappes de la nuit de jeudi à vendredi n'étaient que la première phase de l'opération. Il y en aura d'autres, a-t-il répété cette nuit. À quoi pourrait ressembler la suite de cette attaque israélienne sur le sol iranien?
Alors, certainement plus de cibles militaires, de cibles nucléaires, des cibles qui pourraient aussi avoir un double usage. Probablement, un des aéroports de Téhéran aurait été touché dans la nuit. Un aéroport qui est décrit comme étant plutôt un aéroport spécialisé dans les vols internes et des vols civils. Est-ce que ça pourrait... Ce sont néanmoins des infrastructures qui peuvent être utilisées aussi militairement, évidemment. Donc ça, c'est une suite assez logique. Maintenant, est-ce que... dans la suite logique aussi, il y a toujours un certain nombre d'éliminations de responsables, de cadres du régime, de ces forces armées. Ça a commencé hier, on l'évoquait avec Thierry Coville déjà, avec le chef d'état-major, un certain nombre de responsables aussi, des gardiens de la Révolution et d'ingénieurs. Est-ce qu'il y a plus de personnalités qui pourraient être visées? On sait que les services de renseignement israéliens sont très efficaces, ils l'ont démontré à de nombreuses reprises par le passé, au cours des années, au cours des mois précédents, depuis le 7 octobre 2023. Et puis enfin, la dernière éventuelle ça serait éventuellement la possibilité de s'en prendre à d'autres cibles assez stratégiques pour le pays, mais qui seraient, elles, pour le coup, civiles. On pense notamment aux installations gazières et pétrolières. Là, ce serait une véritable escalade de la part d'Israël, puisque ce sont, pour le coup, des cibles civiles et qu'on ne sait pas quelle réaction cela pourrait engendrer de la part de l'Iran, et peut-être qu'on irait vers une régionalisation de la guerre.
Et on voit dans ce contexte des réactions occidentales, merci Guilhem Delteille, qui détonnent par rapport aux déclarations de ces dernières semaines sur la bande de Gaza et la question palestinienne. On l'a vu notamment avec cette déclaration d'Emmanuel Macron hier soir.
Nous soutenons la sécurité d'Israël, et donc si Israël devait être attaqué dans le cadre d'une représaille par l'Iran, la France, compte tenu de ses emprises, et si elle était en situation de le faire, participerait aux opérations de protection et de défense d'Israël. Et j'ai marqué notre disponibilité en ce sens. À l'inverse, je n'envisage aucunement de participer à quelque opération offensive que ce soit. Ça n'est pas notre rôle et ça n'est pas le chemin que nous choisissons, je l'ai déjà dit. Nous sommes pour un chemin diplomatique sur la question du nucléaire et du balistique iranien.
Le président français hier soir, Thierry Coville, on peut dire que l'Iran et la question du nucléaire iranien recréent une solidarité occidentale inattendu peut-être autour d'Israël?
C'est pas vrai. Écoutez, je suis très très mal à l'aise personnellement par suite à ces déclarations d'Emmanuel Macron. Même le secrétaire général de l'OTAN, vous pouvez vérifier, je crois qu'il a parlé d'une action unilatérale d'Israël. Donc nous, on n'est même pas capable de dire ça. Enfin, je le répète quand même. Excusez-moi, je voudrais vous demander à des juristes, etc. Mais Israël n'a pas signé le traité de non-prolifération. Possède 200, au moins 200 ogives nucléaires. Se permet d'attaquer un pays. Alors, effectivement, le programme nucléaire iranien a progressé, mais tous les services secrets du monde vous diront que l'Iran n'a pas encore la bombe atomique. Et s'ils sont dans cette situation-là, c'est en grande partie à cause de la sortie de Trump de l'accord sur le nucléaire iranien en mai 2018, que la France notamment et l'Europe n'ont pas été capables de défendre. Si vous voulez, c'est bien beau de faire des grandes déclarations aujourd'hui, mais si c'était si important, pourquoi l'Europe n'est pas montée un peu plus au créneau face à Trump quand il est sorti de l'accord en mai 2018? Donc, excusez-moi, mais cette solidarité occidentale, mais il faut arrêter, c'est deux poids, deux mesures. Parce que là, c'est un peu le cliché, mais là, c'est vraiment le cas. Un autre pays a attaqué un autre en dehors de toute l'égalité internationale, point à la ligne.
Pour parler de Donald Trump que vous commenciez à évoquer, Washington tentait visiblement ces derniers mois, c'était nos informations, de dissuader Israël de frapper l'Iran pour ne pas menacer les discussions sur le nucléaire. Hier, le président américain a dit qu'il avait été informé des frappes israéliennes sur l'Iran en amont, mais que les États-Unis n'étaient pas impliqués. On voit cette tentative de prise de distance, notamment pour ne pas mettre en danger les intérêts américains dans la région. L'Iran dit de son côté que Washington a forcément donné son accord. Qu'y faut-il croire ?
Oui, alors si vous voulez, c'est moi je ne vais pas en faire trop, mais c'est un autre élément qui rend la décision israélienne un peu critiquable. Donc, les États-Unis et l'Iran ont engagé des négociations pour régler cette question du nucléaire iranien de manière pacifique. Il y a eu 5 tours de négociations et on attendait normalement un 6e tour de négociations. Je pense que l'Iran ne va pas venir, c'est un peu logique, qui avait lieu dimanche qui arrive. Donc, quand de nouveau notre président dit qu'il est favorable à une solution diplomatique, je veux dire, je pense qu'un des objectifs assez clairs de Netanyahou par cette attaque, c'est de saboter ces négociations. Donc, alors, je pense que, alors moi, je suis pas au courant des secrets de la politique américaine. Je pense que forcément Trump était au courant, mais je veux dire, comment Trump il dit lui-même, ah oui, j'attends les Iraniens dimanche prochain, mais vous rigolez quelque part, on a envie de vous rigoler ou quoi.
Et Donald
très
Trump,
clairement, son plan de négociation, ben il tombe à l'eau, et c'est exactement l'objectif de Netanyahou.
Mais il semble d'ailleurs avoir choisi d'en faire une opportunité puisqu'il appelle maintenant, il exhorte l'Iran à conclure un accord et avertit que les prochaines attaques israéliennes seront encore plus brutales. Il y a enfin la question omniprésente du danger d'un embrasement régional. On voit notamment depuis hier l'inquiétude des pays qui abritent des bases américaines dans la région, l'Irak, la Jordanie, les monarchies du Golfe. Peut-on imaginer l'Iran les frapper comme il a menacé de le faire? Est-ce que la bascule régionale qu'on craint depuis un an et demi se trouve là?
Non, mais je ne comprends pas pourquoi cette question revient souvent, parce que les faits montrent que, si vous voulez, l'Arabie Saoudite a repris ses relations diplomatiques avec l'Iran depuis 2023. Il y a une visite du ministre de la Défense saoudien en Iran il y a quelques mois. Donc, et je pense que l'Arabie Saoudite, les Émirats, il faudrait vérifier, même l'Égypte, ont critiqué au moins eux, quoi, l'attaque israélienne. Donc, l'Iran va pas, si vous voulez, ils ont déjà assez à faire avec Israël. Ils vont pas aller attaquer des pays qui les soutiennent, on va dire, diplomatiquement.
Mais pour vous, cela montre que l'Iran ne va pas frapper ces pays, mais certains analystes voient aussi dans les rapprochements diplomatiques des pays du Golfe avec l'Iran une manière de se prémunir contre l'éventualité de ces frappes. On ne voit pas là finalement que ces pays prennent au sérieux la menace iranienne en se rapprochant diplomatiquement de Téhéran depuis 2023 et même avant.
Oui, c'est vrai. Si vous voulez, je pense qu'il y a un élément intéressant, c'est que lors des négociations précédentes, au début des années 2010 sur le nucléaire iranien, l'Arabie Saoudite était complètement contre et a fait du lobbying auprès de Trump pour qu'il sorte de ce fameux accord dont on parlait. Il y a eu ces attaques, vous savez, bon, qui venaient des Houthis contre les installations pétrolières saoudiennes. Bon, très clairement, c'était téléguidé par l'Iran. Et l'Arabie Saoudite, comme Trump n'a rien fait face à ces attaques, l'Arabie Saoudite a réalisé que s'il y avait un conflit, il serait en première ligne. Et donc, il y a des reprises. Effectivement, c'est vrai, ils ont décidé que c'était mieux de régler leurs problèmes diplomatiquement avec l'Iran. Donc ça, c'est la grande différence par rapport à la période précédente, c'est que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ont repris des relations normales avec l'Iran et debout contre cette attaque israélienne.
Merci Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran, invité de RFI Matin. Très bonne journée à vous. Merci à Guilhem Deltey de ses interventions dans cette édition spéciale qui continue. Et notre live également sur RFI.fr pour suivre la situation minute par minute. Il est bientôt 6h30 en temps universel.
Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Hugues Fabrice Zango, invité exceptionnel dans nos studios ce samedi, la légende du Burkina Faso, médaillé de bronze olympique, champion du monde du triple saut, Hugues Fabrice Zango qui reviendra sur son parcours, sur les pistes, mais pas seulement, une émission spéciale à suivre également en direct, en vidéo, sur YouTube.
Mondial Sport, tout à l'heure, à partir de 16h10 TU sur RFI.